Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Que sont vraiment devenus les marins du Moskva, ce navire russe qui a coulé en mer Noire? Témoignage rare à la une de ce journal. Le père de l'un d'entre eux ose prendre la parole. Il n'a plus aucune nouvelle de son fils, malgré les démentis de Moscou. 2h30 de direct devant des millions de téléspectateurs. Macron, Le Pen, le débat de l'entre-deux-tours ce soir. Pas le droit à l'erreur, notamment sur le thème du pouvoir d'achat qui ouvrira la soirée. Jean-Luc Mélenchon, lui, passe déjà à l'étape d'après et ce rêve, vous l'entendrez, en premier ministre de cohabitation. Au sommaire aussi, un nouveau procès de la haine en ligne et en Ligue 1 de foot, une 33e journée déjà décisive pour le maintien.
Au micro de Yael Gauz, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le porte-parole de la candidate Marine Le Pen. J'ai nommé Laurent Jacobelli.
France Inter.
Nous vivons peut-être nos derniers jours.
C'est le message désespéré envoyé ce matin sur Facebook par les derniers combattants ukrainiens de Mariupol. Ils demandent à la communauté internationale de venir les secourir. L'ennemi, disent-ils, est 10 fois plus nombreux. Dans le camp adverse aussi monte une autre forme de détresse ces derniers jours. Celle des proches des marins du Moskva, ce navire amiral de la flotte russe qui a coulé la semaine dernière en mer Noire. Moscou affirme que l'équipage a été évacué et ne parle pas de morts ni de disparus. Mais certaines familles n'ont pourtant aucune nouvelle, comme ce père d'un marin que Jean-Sébastien Soldaini a pu joindre pour Inter.
Avant le naufrage du croiseur, Dimitri était en contact régulier avec son fils. Une communication WhatsApp qui disparaît en même temps que le Moskva. Immédiatement, ce père de famille vivant en Crimée se met à la recherche d'Igor, 20 ans, jeune cuisinier de bord.
Avec d'autres parents de marins, nous sommes allés dans les hôpitaux de la région et nous avons demandé à avoir les noms de ceux qui étaient là. Tout ce qui nous a été répondu, c'est qu'il n'y avait pas d'informations à ce sujet. Pas de morts, pas de blessés.
Deux jours après le naufrage, il voit cette vidéo montrant le capitaine du navire saluant son équipage. Une centaine de marins sur les 500 habituellement à bord. Impossible de dire si son fils est présent. Il se met alors en contact avec d'autres parents pour essayer d'en savoir plus. Une maman, notamment, sans vraiment de succès.
Son fils refuse de parler. Il dit qu'il ne se rappelle de rien, qu'il était inconscient. Cette maman n'a pas le droit de voir son fils. Elle ne sait pas où il est hospitalisé, comme si on voulait le lui cacher.
Dimitri contient sa colère. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est grave, il s'arrête avant d'ajouter « Si je vais plus loin, je risque des poursuites pénales ».
Témoignage recueilli par Jean-Sébastien Soldaini. Les Ukrainiens les réclamaient depuis des semaines. Kiev vient de recevoir des avions de chasse et des pièces détachées pour son armée de l'air. C'est Washington qui l'annonce, sans dire qui les a envoyés. Mais il s'agit probablement de MiG-29 de fabrication russe, dont disposent quelques pays d'Europe de l'Est. C'est un tournant pour les Occidentaux qui, au début du conflit, se refusaient à envoyer des armements lourds par crainte d'être considérés comme co-belligérants.
Il est 7h33 finalement, Jean-Luc Mélenchon ne compte pas passer la main.
C'est pourtant l'impression qu'il avait donnée au soir de sa défaite du premier tour de la présidentielle. Bien 10 jours plus tard, le leader des Insoumis remonte sur le ring, les législatives en ligne de mire. Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon demande aux Français de l'élire Premier ministre, Laurence Perron.
Veste grise, cravate bordeaux, lunettes claires, Jean-Luc Mélenchon n'est clairement pas dans le costume d'un retraité de la politique, même s'il l'avoue.
Vous n'en sortez pas indemne. Je pense que j'ai pas fini avec ça.
Il repart donc au combat. Le troisième tour de l'élection présidentielle s'appelle pour lui les législatives.
Moi, je ne veux pas que Madame Le Pen prenne le pays et je ne veux pas que Monsieur Macron garde le pouvoir.
Et Jean-Luc Mélenchon, qui ne sera probablement pas candidat, envisage ironiquement d'utiliser au maximum les institutions d'une Ve République qu'il voue aux gémonies. Si l'Union Populaire l'emporte, il se considérera Premier ministre légitime.
Je serai donc le Premier ministre, pas par la faveur ou la grâce de Monsieur Macron ou de Madame Le Pen, parce que du moment qu'on aura la majorité, moi, le lendemain, vous savez une chose, c'est pas le président qui signe les décrets, c'est le Premier ministre. Je signerai le décret de blocage des prix.
Premier ministre, éventuellement de Marine Le Pen.
Soit nous disons qu'ils sont dangereux pour la République, alors on les dissout. Si on ne les dissout pas et qu'on leur donne des sous tous les ans, c'est qu'on les accepte.
Il a réitéré à plusieurs reprises son refus du vote Marine Le Pen, tout en se refusant à appeler au vote Emmanuel Macron.
Et je comprends que quand on a été éborgné par M. Macron, on n'ait pas envie de voter pour lui.
Mais il est aussi très clair, ne vous abstenez pas, restez acteur. En 2027, il ne sera pas candidat, la relève est prête, dit-il, et il lui assigne cette tâche, faire se lever un nouveau front populaire.
Et en vue des législatives, des tractations sont déjà en cours avec les écologistes et les communistes. Mais pour l'instant, LFI refuse de négocier avec le PS malgré la main tendue. En Conseil national, hier soir, les socialistes ont voté en faveur de discussions avec les insoumis pour ces élections. Avant juin, il y a quand même le second tour de la présidentielle, dimanche. Et à 4 jours de l'échéance, le débat télé ce soir, Macron-Le Pen, la candidate RN qui sera d'ailleurs la première et la dernière à prendre la parole. Ainsi, on a décidé le tirage au sort. Mais un tel débat a-t-il déjà inversé la tendance dans les urnes sous la Ve République ? Bien pas forcément, Anne Souhaitemont.
Des formules choc entrées dans l'histoire politique, des moments de télévision qui restent. Giscard face à Mitterrand, 74.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Mitterrand face à Chirac, en 88.
Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Sarkozy face à Royal en 2007.
Je ne sais pas pourquoi madame Royal s'énerve. Et
je ne m'énerve pas.
Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors ?
Hollande face à Sarkozy en 2012.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur.
Mais ces chaos ont-ils été décisifs ? En 2017, le crash de Marine Le Pen en direct démobilise certains de ses électeurs et mobilise inversement des abstentionnistes en faveur d'Emmanuel Macron. Mais à l'époque, on avait estimé que seuls 3% des voix avaient bougé contre une avance de plus de 10 points d'Emmanuel Macron. Pas de renversement donc, mais à chaque fois un renforcement de la tendance, car les audiences sont bonnes, oui. 16,5 millions de téléspectateurs en 2017, mais pas suffisantes, ce n'est qu'un tiers du corps électoral. Aussi, surtout parce que les débats d'entre-deux-tours arrivent tard dans la campagne, quand les intentions de vote sont déjà majoritairement cristallisées.
Le débat de l'entre-deux-tours à 21h à suivre aussi en simultané sur France Inter. D'ailleurs, le premier thème de discussion entre les deux finalistes ce soir, ce sera le pouvoir d'achat. Actualité brûlante pour nombre de Français. Consommateurs, mais aussi petits commerçants. 77% des dirigeants de TPE sont inquiets pour leur activité, selon une enquête du syndicat des indépendants. Les clients font beaucoup plus attention au portefeuille et les gérants de boutiques en font les frais, comme dans ce magasin de chaussures du centre de Paris où s'est rendue Maria Melkurdi.
Dans cette charmante petite boutique parisienne, on trouve des bottines, bottes, sandales fabriquées en Italie. Des prix allant de 50 à 230 euros.
Par rapport à l'avant-Covid, je suis à moins 50% de chiffre d'affaires.
La vendeuse Muriel Martin est seule derrière la caisse. C'est elle qui gère cette TPE depuis 9 ans.
Je ne peux pas me verser de salaire. On se paye plus, on vit avec nos économies qui baissent.
Et elle tente de garder le sourire malgré le manque cruel de clients en ce moment.
La petite boutique dans les centres-villes, ça devient très difficile de toutes les manières. Mais je tenais parce que j'avais ma clientèle fidèle.
Et maintenant ?
Et maintenant, ma clientèle souffre et on souffre tous.
Quand les clientes passent, elles font beaucoup plus attention au portefeuille.
On regarde parce qu'on a envie, bien sûr, toujours. Mais on ne se lâche pas, on réfléchit. Celle qui va se lâcher, elle va prendre une paire, mais pas en rajoutant un foulard ou un petit sac.
Et Muriel Martin aussi doit faire des calculs qui la plonge dans l'incertitude.
Le loyer, les charges sociales, rien n'a baissé, on n'a plus d'aide. Et forcément, quand le compte se vide par litre et qu'ils se remplissent par petites gouttes, à un moment, on doit penser à arrêter.
Au premier trimestre 2022, le nombre de défaillances d'entreprises liquidation ou redressement judiciaire a augmenté de 34% sur un an. Selon le syndicat des indépendants, 94% de ces entreprises sont des TPE.
Un nouveau procès de la haine en ligne. 5 internautes convoqués aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement en meute et menaces de mort à l'encontre de Nicolas Hénin. En janvier 2019, ce journaliste, ex-otage de Daesh, demande la fermeture du compte Twitter du père d'une victime du Bataclan parce que ce dernier appelait à fusiller tous les djihadistes et leurs enfants. Dans la foulée, Nicolas Hénin reçoit près de 20 000 tweets agressifs, certains donc avec menaces de viol et de meurtre, Jean-Philippe Deniaux.
Nicolas N1 va tomber et il ne se relèvera pas. C'est lui qui mérite l'exécution. Je souhaite que votre gosse soit la prochaine victime de terroristes. Derrière ces menaces directes, 3 hommes et 2 femmes. Certains ont indiqué au cours de l'enquête avoir écrit ça sous le coup de la colère et le regretter, mais d'autres ont continué d'assumer. S'il n'est pas content, il n'a qu'à clôturer son compte, a maintenu l'une d'eux. Mais pour Nicolas N1, ce déferlement de haine lui a fait revivre 6 ans plus tard les traumatismes de ses 10 mois de captivité en Syrie, plaide son avocat maître Éric Morin.
Nicolas Hénin, il a vécu ça comme une sorte de tsunami dans sa vie, un véritable calvaire. Il était renvoyé à son statut d'otage, dénigré, méprisé, calomnié et moqué. Et pas seulement dénigré, mais également menacé des pires sévices et menacé de mort.
Parce qu'ils ne pouvaient ignorer que chacun de leurs tweets participait à un mouvement de haine collective, les 5 internautes sont jugés pour harcèlement en meute. Ils risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement.
Après Nantes, le mois dernier, c'est maintenant à Grenoble que de jeunes fêtards racontent avoir été victimes de piqûres inexpliquées lors de soirées en discothèque. 4 femmes et 2 hommes ont porté plainte. À Nantes, 23 cas ont déjà été signalés aux autorités. Une enquête est ouverte.
Il est 7h40, il n'y a pas qu'en politique, Alexis, que la soirée sera peut-être décisive.
Et en Ligue 1 de foot aussi, 33e journée, et le PSG peut s'adjuger son 10e titre de champion de France dès ce soir, s'il l'emporte à Angers sur un meilleur score que Marseille contre Nantes. Mais en bas de classement aussi, il y a de l'enjeu pour les 6 clubs en lutte pour le maintien. Parmi eux, 2 monuments du foot français en péril. Bordeaux, 19e, accueille Saint-Étienne, 17e, Emma Sarango.
À eux deux, ils cumulent 16 titres de champion de France, 10 pour Saint-Etienne, 6 pour Bordeaux. Mais pour l'un comme pour l'autre, l'âge d'or semble bien lointain. Le dernier trophée des Girondins, la Coupe de France, remonte à bientôt 10 ans. Idem pour le dernier top 5 en Ligue 1. Le rachat par un fonds américain en 2018 a précipité la chute. Alors l'entraîneur bordelais David Guillon mesure le séisme éventuel pour le foot français.
Ce sont 2 grands clubs qui méritent de rester sur l'échiquier français. Mais il y a une loi sportive et aujourd'hui, ce sont 2 équipes qui sont différentes. Difficultés sportives, mais elles ont beaucoup de ressources.
Du côté des Verts, l'aventure ces dernières saisons n'a plus rien d'une épopée. Les supporters assurent désormais chanter pour leurs couleurs plus que pour leurs joueurs. Mais le coach stéphanois Pascal Duprat l'assure, chacun est bien conscient de sa responsabilité.
Y compris les joueurs qui ont un faible temps de jeu, ne lâchent pas. 300 salariés, arc-boutés, des dizaines de milliers de supporters qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir la Saint-Étienne en Ligue 1.
L'avenir sportif des Verts est d'autant plus crucial que le club est en vente depuis plusieurs mois sans qu'aucun repreneur sérieux ne se soit pour l'instant manifesté.
Cette 33e journée de Ligue 1 à partir de 19h, foot ou politique, faudra choisir.
Alexis Morel, merci. Bon là on choisit la politique avec Thomas Legrand. Hein,